Voilà, musique, etc. Deuxième partie avec dans les studios de ma gauche à ma droite Jean-Claude Legros, Najib Gamaz et Hassen Gamaz, le Blue in the Blues. Bienvenue dans l'émission, bienvenue à Radio Canu.
Bonjour à toi Guillaume, on est toujours content de venir ici.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Oui, bonjour, toujours très sympa de venir à Radio Canu.
Là. Bonjour, bonjour.
Oui, donc il y a une personne, que Jean-Claude Legros, qui est présent, qui en fait, pour ceux qui ont écouté la dernière émission, qui part, où on peut pas parler des conférences à ce moment-là.
Comment Salut.
Donc je sais pas qui se lance. Donc vous faites du blues, pour déjà présenter Blue in the Blues un peu rapidement pour ceux qui n'ont pas les autres émissions en tête, et on peut parler aussi des conférences quoi.
Alors Blue in the Blues, c'est un concept au départ musical là, qui est basé sur la musique nord-américaine et ses interférences avec la chanson française. Et en particulier une grosse partie qui est blues et folk. Et en fait, donc les conférences, c'est plus un concept qu'un groupe. C'est-à-dire que ça peut se présenter en duo, en trio, en quartet, en quintette, enfin bref, peu importe. Mais il y a quand même une base. Il y a quand même une base qui tourne. En général, c'est en duo avec Najib et Arpitoine Pérez à l'harmonica. Donc on fait toute une reprise.
Voilà. Petit souci, non, non, c'est juste le casque. Non, non, tu peux le laisser. Voilà. Il faut couper le casque bleu, c'est tout. Parce que ça fait du Larsen. Excuse-moi, Larsen, de t'avoir coupé.
Pas de problème, mais.
Mais on changera de casque tout à l'heure.
Donc, voilà.
Problème technique, hein. Désolé pour les auditeurs et pour Larsen. Voilà, on change de casque. Ça arrive tout le temps à Radio Canu. Et donc vas-y, je t'ai coupé.
Voilà, donc, tout va bien. Après le petit problème technique, voilà. Donc voilà, Blue in the Blues, c'est ce que je viens de dire. Mais on fait aussi des conférences, concerts avec notre ami Jean-Claude Legros, ici présent, qui est un peintre, qui fait des figurations de scènes de blues, aussi bien que de portraits. Mais il va se présenter lui-même, comme ça, ça sera bien plus simple.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bon, je vais plutôt présenter d'ailleurs ce qu'on fait ensemble, ça illustrera ce que je fais par ailleurs. Hein. On fait, alors c'est un mot un peu alambiqué, hein, on fait une conférence picturale musicale. Alors le terme est compliqué, mais ça résume bien ce qu'on fait pendant à peu près une heure et demie en racontant des histoires autour de tableaux et en écoutant de la musique. Hein. Et finalement, ça permet d'organiser une plongée. Hein, dans un univers qui est celui de la fabrique du blues. Et pendant ce temps-là, du coup, on fait qu'un peu comme dans un film, hein, quand on est pris par une intrigue, il y a des personnages, des décors et de la musique. Et de la même façon, moi, je raconte des petites histoires qui finalement suivent la trame de la grande histoire du blues. J'introduis des personnages, je les positionne dans l'évolution du blues, et puis je parle de lieux, de moments qui ont fait cette grande histoire, et puis ça se mêle avec la musique que joue Hassen et le groupe Blue in the Blues, qui est la forme de blues la plus authentique qui soit, hein, qui donc plonge, hein, immerge le public, hein, comme un film, hein, dans une histoire avec très concrètement des scènes, hein, qui se déroulent. Finalement, c'est une sorte d'exploration du blues, mais sans approche savante. Hein, c'est plutôt une façon d'anecdotes, de portraits, de petites histoires qui sont déroulées et qui font que au fil de l'histoire, on peut reconstituer les grandes étapes qui ont fait du blues la musique la plus influente du XXe siècle. Alors, à titre d'exemple, hein, je raconte, par exemple, comment, dans le dernier quart du 19e siècle, le blackface, les spectacles de blackface qu'on peut bien sûr décrier pour beaucoup de raisons, ont finalement servi de cheval de Troie aux musiciens afro-américains pour introduire la musique syncopée dans la musique populaire américaine, puis mondiale. Donc c'est un rôle incroyable, hein, un contre-courant effectivement de ce à quoi on réduit le blackface. Je décris aussi comment l'apparition de la vente par correspondance a été à l'origine de l'émergence du blues.
Hein, on peut expliquer, non,
ça s'expire, moi, pour moi, c'est un petit moment à l'expliquer.
C'est vite fait. C'est bien, tu leur mets l'eau à la bouche. Bravo, Jean.
Je raconte aussi, je montre le cheminement parallèle des musiciens ruraux et des premiers compositeurs professionnels qui aboutit à une espèce de transmutation alchimique qui se traduit concrètement par la composition de St. Louis Blues en 1914 et qui est le passage d'un folklore rural obscur en une musique qui va devenir la plus populaire du monde. Mmh. Et donc c'est vraiment un passage alchimique qui se passe. Je raconte aussi comment les reines du blues ont aussi été celles qui ont introduit le jazz de la modernité. Mmh. Je mets les gens dans les pas d'un gars qui s'appelle Arthur Bradley Conley Bradley et qui a trois fois en trois décennies va être au cœur des événements principaux qui montrent la transformation du blues dans sa forme la plus moderne. Et puis je décris aussi des anecdotes autour de l'accident qui est vraiment l'apparition du Chicago Blues qui n'aurait jamais dû exister selon toute probabilité, et qui fait qu'un seul coup, il va devenir, par des circonstances incroyables, au cœur de l'évolution du blues moderne. Donc voilà un petit peu le contenu de cette conférence.
D'accord. Et on peut rajouter quand même, Jean-Claude, que grâce à tes tableaux aussi, les gens ont ce côté visuel. En
voilà, plus c'est les images qui plongent les gens dans les décors, dans les personnages de l'époque.
Il y a un ressenti pictural qui est aussi...
La musique, plus les images, plus les histoires, on est vraiment... C'est le but, on plonge dans un film. Un feuilleton, c'est une série. La série,
ouais, bravo, tout à fait ça. D'ailleurs, on n'a pas intitulé ça l'histoire du blues, c'est très important. On appelle ça une histoire du blues. Parce qu'il ne faut absolument pas que les gens qui voudraient assister à cette conférence voudraient, comme ça, d'un seul coup, en apprendre tout ce qui a fait cette musique, comment elle est née, etc. Non, nous, avec Jean-Claude, d'ailleurs, il est très modeste parce qu'il ne le dit pas, mais il a été souvent aux États-Unis, donc il a vraiment été aux racines de où a été créée cette musique. Donc, et dans tous les lieux où il y a eu les grands. Créateur du blues, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc vraiment, il a su ressentir les choses et voir les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est une histoire du blues et c'est celle que nous, on veut jouer, montrer, etc. Et l'originalité de cette conférence, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on propose différentes facettes pour exposer tout ce que l'apport de cette musique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit aussi, et surtout picturale. Et c'est ce dont nous remercie beaucoup le public, d'ailleurs.
C'est plutôt décapant, c'est pas des discours savants, c'est plutôt décapant, c'est plein de trucs qui prennent les idées reçues à contre-courant, qui exposent sous une facette complètement différente, quelque chose que tout le monde croyait acquis, mais n'a jamais fouillé. Donc c'est vraiment tous ces dessous que j'essaye de décrire.
Ouais. D'accord. Moi, je voudrais juste rajouter qu'en fait, pour ce qui est de la peinture de Jean-Claude, que j'adore, il le sait d'ailleurs, c'est ce qui a servi de prétexte pour notre rencontre, puisque moi je l'ai rencontré dans un club de blues au sud de Lyon, et il était sur Facebook, et j'avais vu un de ses tableaux d'un bluesman que j'adore, qui s'appelle Charlie Patton, tout le monde le sait, ceux qui suivent les émissions. Et en fait, j'ai reconnu ce tableau, et c'est comme ça que je lui ai fait une demande d'amis. Et à partir de là, on est devenus très proches, puisqu'on a beaucoup discuté d'abord au téléphone, puis après je suis allé chez lui. Et là, j'ai découvert qu'il avait une collection de disques fabuleuses, des documents, des livres en français, en anglais, qui suivaient tout un tas de forums sur le web à propos du blues, des forums mondiaux d'ailleurs, donc c'est ce qui est très intéressant. Et on a énormément échangé. Alors, ce que j'ai retenu, je ne sais pas ce que lui a retenu ou lui a lui-même, c'était qu'on avait sans arrêt, on faisait les mêmes constats, mais qu'on en avait des interprétations un peu différentes, mais sans plus quoi. Et c'était c'est devenu très intéressant pour moi. Parce que je ne trouvais personne qui avait fait toutes ces recherches. Moi, j'avais fait beaucoup de recherches sur le blues, mais à travers la folk, la musique américaine. Je m'intéressais au blues, au jazz, à la folk et tout. Donc, j'avais surtout cherché par le côté musical. Et bien sûr, je connaissais des histoires. Mais lui, là-dessus, avait poussé encore beaucoup plus loin sur chaque personne qui m'intéressait. Et ça a commencé comme ça. Du coup, nous avons avancé là-dessus. Je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus.
Ah oui, voilà, donc ça a été une stimulation réciproque, le fait d'avoir cette passion pour le blues, surtout pour aller chercher à la fois dans les racines musicales, ce que fait Hassen, et moi dans les racines historiques, comment cette musique a pu émerger, d'où elle est partie, cette ascension incroyable, une musique qui était condamnée à l'obscurité, et qui était bien aussi influente. Donc moi, je suis passionné par cette histoire, et du coup, en comparant l'approche du musicien, et puis moi, l'approche, je dirais, d'amateur de blues,
ça m'a permis... Méloman, quand même, méloman, c'est pas...
Oui,
ah ouais, quand même. On va faire un petit morceau.
Ouais, un premier morceau, s'il vous plaît. Les Blowing the Blues. Je vous représente. Donc, il y a Najib Gamaz et Hassen Gamaz.
Oui,
et
aujourd'hui.
C'est les Blowing in the Blues.
Yeah, on va faire un morceau de Robert Johnson. her down to the station. Got my suitcase in my hand. When I put her down in the station, got my suitcase in my hand. It's hard to tell, it's hard to tell, but I just got my loving pain. When you got your loving pain, train get in the station, I looked in her eyes. When the train get in the station, I looked in her eyes. It's hard to tell. There's something. Train lives up the station. It got two lights on behind. When the train lives up the station, it got two lights on behind. With a red eye blows my mind, and the blue light was my blues. When you got your loving pain, the loving pain de Monsieur Robert Johnson.
Najim Gamaz. Hassan Gamaz, des Blue in the Blues en direct des studios de Radio Canu. Vous voulez présenter la chanson? Elle a une histoire particulière.
On va laisser Jean-Claude en parler.
Ouais, elle parle de
c'est
quoi?
C'est une adaptation.
Cette
chanson. Hein
oui, c'est bon. Ça fait partie de ces morceaux que Robert Johnson a écrit dans sa quête finalement d'embrasser tout ce qu'était le country blues des années 1920-1930. Hein, et du coup, il écrit un morceau qui n'est pas tout à fait dans la veine classique du blues. Hein, sa décomposition, sa progression harmonique, tout est assez différent tout en étant complètement dans l'esprit blues. Donc c'est un morceau d'une grande modernité, hein, que les Rolling Stones d'ailleurs vont reprendre avec succès dans les années 60. Et du coup, on peut dire que c'est le morceau le plus avant-gardiste pratiquement de Robert Johnson, qui est vraiment l'homme qui a fait la synthèse de toutes les facettes du blues des années 30.
Oui, si, puis, oui, tout à fait. Vous êtes du Sud, c'est quelqu'un qui était un catalyseur de cette musique. qui a permis au blues de passer encore un cap, même s'il était très inspiré des gens comme Patton, Sunhouse, qu'il a connu d'ailleurs, puisque Jean-Claude fait un très beau tableau d'ailleurs de leur rencontre. Ça serait bien qu'ils nous en disent deux mots de la rencontre, j'adore cette histoire, de la rencontre de monsieur Robert Johnson avec Sunhouse.
Ah oui,
c'est vrai. En plus j'adore ce tableau parce que je trouve que c'est là, il y a les couleurs, elles sont là. Il est inspirant ce tableau parce que moi, la version que j'en avais dans mon esprit, j'ai vu son tableau, j'ai dit, mais c'est vraiment ça, quoi. Comme ça que je la voyais.
Jean-Claude Legros peut parler peut-être de cette rencontre.
Cette histoire, alors à ce moment-là, c'est plutôt une retrouvaille qu'une rencontre. Hein. L'histoire de Robert Johnson est une histoire qui a mis longtemps à être éclaircie. Elle est même encore récemment, complétée par un ouvrage assez important, on va dire révolutionnaire, hein, qui replace tout Robert Johnson dans ce qui est son histoire et qui évoque effectivement ce qu'a été notamment cette liaison, cette rencontre entre Robert Johnson et Sunhouse. Quand Robert Johnson qui est né en 1911, hein, à une vingtaine d'années à peine, hein, il joue l'harmonica, c'est pas du tout un bon guitariste, et il traîne dans les endroits où il y a des gens comme Robert Johnson, comme Sunhouse, comme Willie Brown, comme Tommy Johnson qui joue, et lui souvent prend la guitare au moment où les gars sortent un peu pour boire un verre, voir une fille ou boire un coup, enfin boire ou fumer une cigarette, et il essaye de jouer quelques trucs et il se fait toujours charrier par les grands de la région, Mississippi où ça se passe, et notamment Sunhouse, hein, qui est devenu un maître, même s'il a récemment seulement percé, et du coup il se moque de lui, il dit écoute arrête, reprends ton harmonica et laisse la guitare. Et puis au début des années 30, 31, Robert Johnson va disparaître. Alors c'est là que naîtra aussi la grande légende du Carrefour où il apprend à jouer de la musique, mais en réalité c'est une autre histoire qui se passe et intéressante aussi, mais en tout cas il revient vers 1932-33, il réapparaît dans la région où sont toujours notamment Sunhouse et Tommy Johnson et Willie Brown, et il revient dans un des juke joints où il joue, et il débarque au moment où, ben, ce soir-là dans ce juke joint, au moment où Sunhouse est là, et Sunhouse le voit débarquer, il lui dit ah, oh, tiens Robert, voilà, on t'avait disparu. Et puis Robert Johnson a une guitare avec lui, oh, t'as une guitare, il a de dire surtout joue pas. Et puis quand même il l'a joué. Et alors moi dans ma scène je les isole de ce qu'est la foule d'un juke joint, mais en réalité il y a toute une foule. Robert Johnson joue, et là c'est une extraordinaire révélation pour Sunhouse qui découvre ce qui sera sans doute le plus grand musicien de blues acoustique, hein, du siècle presque, hein,
avec ce qu'il a inventé, hein. Ouais.
et du coup il y a un effet de sidération de Sunhouse qui dit mais comment ce gamin a pu, en l'espace de 2-3 ans où il a disparu, devenir un si grand musicien. Et donc c'est cette scène que j'ai, voilà, que j'ai peint.
La peinture, on peut la voir quelque part, peut-être, pour les gens
qui
voudraient...
Oui, bien sûr. Il y a d'abord un site qui s'appelle Blues Attic, hein, qui est mon site internet sur lequel toutes mes peintures. Et puis sur Facebook, hein, aussi, avec le même Blues Attic d'ailleurs, hein, sur lequel j'ai une page dédiée à mes peintures et sur lequel on peut trouver tous ces tableaux.
A2TCIC, hein. Alors, Attic, dans le grenier, grenier du blues.
C'est le grenier du blues, hein, Blues Attic A2TIC.
Les Boy in the Blues, vous nous rejouez un deuxième titre si vous voulez bien. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y a avec les cas. C'est soit vous prenez tous les deux le bleu et vous le branchez et vous coupez le jaune, parce que sinon ça fait du Larsen.
Ouais, donc, tu peux passer ton.
Ah oui, voilà. Vous n'avez pas besoin du casque.
Oui,
hein.
D'accord. Donc, c'est pour qu'il ait un retour.
Pour que Nejib ait un retour, s'il peut attraper le casque rouge.
Alors, c'est alors il jouait sans retour.
Et... On n'a pas eu le 30 de trop s'installer. Ça a été un peu la transition a été un peu rapide. Oui.
Pas grave, c'est pas grave, on va s'en sortir.
Oui.
De l'autre côté.
Voilà, je vous rappelle que vous écoutez musique, etc., comme tous les dimanches de 10 à 12, et là on est dans la deuxième partie de l'émission, de 11 à 12, avec les Blue in the Blues, et également Jean-Claude Legros qui est présent, il y a Nejib Gamaz et Hassan Gamaz qui vont nous interpréter une chanson.
Là, j'ai choisi un morceau encore de Robert Johnson pour montrer la diversité de sa musique. Mais je vais faire un extrait, parce que j'ai plus tout le texte en tête. Et il est connu un peu, Robert Johnson, pour avoir été un des précurseurs de ce qu'on appelle la walking bass, autrement dire la basse qui marche. Et dans ce morceau, on va voir qu'il est très proche de ce qui est la musique de la Nouvelle-Orléans. en blues et même de grilles de jazz. Late, I will wring my hands and cry. From too late, I will wring my hands and cry. I believe to my soul.
Direct des studios de Radio Canu, répète peut-être le titre de la chanson. Le titre de la chanson.
Love in Vain. L'amour en vain. Moi j'aime beaucoup ce texte parce que je trouve qu'il montre une. C'est une partie qui est beaucoup exprimée par le blues. Tout ce qui n'est pas accessible. Pas à cause de la condition ou autre chose, hein, parce qu'on n'est pas. C'est peut-être l'homme lui-même, hein, c'est-à-dire la personne elle-même. Mais ça parle beaucoup de ce qui peut nous apparaître totalement inaccessible. Pour des raisons multiples. On est bien d'accord.
Et puis, il y avait une chose intéressante, donc ça fait quand même une piqûre de rappel pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté les précédentes émissions où vous étiez venu. Blowing the Blues, expliquer d'où vient le Blowing in the Blues, pourquoi avoir choisi, parce qu'on pense à la chanson de Dylan, et donc c'est très intéressant l'explication que tu donnes à cette gamaze.
Bien, en fait, alors cette chanson, Blowing in the Wind, de Bob Dylan, elle est construite sur une grille de blues, en fait, qu'il adapte à chaque strophe, dans laquelle, c'est une chanson dans laquelle il pose trois questions à chaque fois par couplet et il y répond par le refrain, ce qui devient le refrain en disant que tout le monde ira par son commentaire et compagnie, que la réponse souffle dans le vin. Et c'est parce que longtemps j'avais choisi un autre intitulé pour le même genre de groupe. Ça s'appelait Blues Tempo. Donc j'ai trouvé que ça collait beaucoup moins maintenant. Et que c'était plus ça, l'histoire de blues. Ça m'a collé en jouant justement Blowing in the Wind. Si tu veux, je t'en fais un petit bout, histoire.
Ah oui, avec plaisir. Hein, j'aime beaucoup Dylan, hein, ça.
How many roads must a man he walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she slips in the sun? Yes, and how many times can a cannonball fly before the far river bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. He said, how many times can a mountain exist before I let it wash through the sea. Yes, and how many times can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head, pretending that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man he look up before that he can't see the sky? Yes, and how many ears must one man have before that he can hear people cry? Yes, and how many death will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, it is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Hassan Gamaz des Blowing in the Blues avec la chanson de Dylan, donc
Blowing in the Wind.
Ah oui, j'allais me tromper justement.
Oui, mais c'est très révélateur.
C'est un peu fait pour, hein, Guillaume.
Ça a failli marcher, du coup.
Bien, je crois que Nejib a quelque chose à transmettre, un message, parce qu'on travaille beaucoup avec le théâtre des Asphodèles.
Ouais, donc.
Donc, avec qui nous travaillons, qui s'occupe de tout l'administratif de Blowing the Blues, on va dire, pour raccourcir, hein, c'est pour faire un raccourci. Et donc, il a quelque chose à informer, pour informer les gens.
Écoutez, alors, d'abord, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, on va remercier toujours Radio Canu, qui nous reçoit toujours avec gentillesse, bonheur, et je salue encore cette radio historique qui, j'engage tous les Lyonnais à continuer à écouter cette radio, parce que, puisque jamais on a besoin de ce genre de radio pour nous les artistes, pour nous, à la fois nous soutenir et nous faire passer la musique qu'on produit. Donc, puisque on est justement dans ce domaine de la production, Blowing in the Blues a besoin effectivement de soutien, et nous travaillons avec donc le théâtre des Asphodèles, qui est une association qui reçoit principalement évidemment des artistes de tous horizons, évidemment qui produit des pièces de théâtre. Leur spécialité, c'est la comédie de l'art, mais qui a pour vocation de recevoir toutes formes de culture. Donc il y a aussi des expositions, par exemple de peinture, et il y a aussi des expositions et aussi des échanges littéraires. Donc en ce moment, par exemple, il y a un gros travail qui se fait sur des écrivains de l'Afrique, et notamment aussi avec les musiciens. Donc c'est grâce à eux qu'on peut avoir, comme dit Hassan, un statut de musicien, etc., par rapport à toute la difficulté... bon, on va pas dire administratif, mais en tous les cas relationnel. Donc c'est avec eux qu'on travaille, et malgré tout cela, bon, ils ont des difficultés à se maintenir. Donc ils vont lancer une souscription pour fin janvier. Donc je vous engage à aller sur le site Théâtre des Asphodèles pour effectivement nous soutenir. Et aussi à savoir que tous les artistes qui ont des choses à proposer peuvent évidemment le faire, mais nous, Blowing in the Wind, on a besoin de ces structures pour continuer. Donc voilà, et notamment par rapport à la conférence, on va en donner une prochainement au théâtre. Voilà, donc dès qu'on aura la date fixée, c'est promis, on vous l'enverra, on fera une communication. Voilà, et c'est grâce à ce genre de structures qu'on peut continuer à travailler.
Justement, on peut commencer à faire votre com pour vous suivre, savoir à quand aura lieu la date de cette conférence.
Alors, dernièrement, elle devait être fixée, c'est très bien, voilà, tu vois, elle devait être fixée fin janvier. On a eu des problèmes techniques, parce que effectivement, il faut choisir la bonne date, etc. Puis il y a un programme qui est bien établi, mais ça va se faire très rapidement, parce qu'il faut d'abord effectivement avoir les moyens de faire les choses comme il faut, et surtout, on veut la faire dans les meilleures conditions, Hein, on adore cette conférence parce que elle est pour nous très essentielle. C'est singulière. C'est quelque chose que nous seuls proposons pour le moment. Donc c'est promis, dès qu'on aura la date, on vous la communique et on invitera tous les auditeurs de Radio Cagneux à venir participer à cette conférence. C'est promis.
Ce sera avec plaisir. Et...
Bien, écoute, je te propose de faire un morceau de bluesman que Neji aime particulièrement. Et j'aimerais que juste avant, Jean-Claude nous parle un petit peu de ce duo, du rôle qu'il a eu dans l'histoire du blues, et qu'est-ce que le country blues et les aspects. Parce que country blues, ça veut un peu tout dire ici. Or, j'aimerais que Jean-Claude soit un peu plus, s'il peut, s'il te plaît. Et puis donc nous parler de ce duo Solitary et Bonnie McGee, et le rôle qu'ils ont eu, et en plus l'importation du blues... rural en Europe, parce qu'ils ont mis un rôle là-dedans, si tu peux nous dire deux mots dessus.
Oui, c'est important parce que c'est un duo à la fois très célèbre et en même temps presque à la marge de ce qu'est l'histoire, hein, ce qui est un paradoxe. Hein. Il est fameux et il n'est pas au cœur de l'histoire. Pourquoi il est fameux? Parce qu'il va être sans doute le groupe le plus populaire du revival blues des années 50-60, à partir des années 60 surtout. Et pourquoi il est à la marge? Parce que finalement, il apparaît à une époque où le blues, qu'on appelle country blues, le blues aux origines rurales les plus affirmées, qu'on joue sur une guitare acoustique, plus souvent seul ou en duo, harmonica, guitare par exemple, ce blues-là a disparu de l'actualité de la communauté noire, hein, qui est dans le rhythm and blues, hein, à partir des années 40, hein, c'est un blues moderne, électrique, que Chicago Blues va amplifier. Sous l'impulsion... parce que un homme qui s'appelle Bibi Bronzi va avoir un succès là aussi complètement inattendu avec des reprises de vieux blues. Il va y avoir au cœur des années 50 la conquête d'un public blanc américain qui jusqu'à cette époque-là ignorait complètement ce qu'était le blues, qui va un public plutôt progressiste, hein, des milieux new-yorkais du Nord, hein, donc très loin des origines du blues au point de vue de leurs racines. Hein, public plutôt de gens des milieux sociaux, des milieux politiques, des milieux étudiants américains, qui vont s'éprendre pour le blues à l'occasion de ce que va être à ce moment-là tout un retour, hein, une contestation de la société de consommation et un retour vers des musiques plutôt folkloriques et originales. Et du coup, on redécouvre plein de musiciens. On a parlé de Sunhouse, il va réapparaître, on le sort de plus de 20 ans de retraite où il ne jouait plus de guitare et Sunhouse revient. Il y a des festivals à Newport, donc toujours dans le nord, hein, très loin du pays du blues, qui arrivent, et un certain nombre de musiciens vont, soit parce qu'ils étaient déjà des musiciens du blues, comme Sarnos, comme effectivement Skip James, ou comme Big Joe Williams, ou Fred McDowell, tous ces gens-là, eux reviennent, et puis des nouveaux, qui étaient plutôt dans un blues assez moderne, comme Bibi Bronzi, et comme Bronnie McGee, je n'y tirerai un peu moins, ces gens-là vont saisir l'opportunité, qui est ce nouveau créneau, et vont devenir des vedettes d'un blues revival pour un public blanc, et ils vont devenir les ambassadeurs du blues dans le monde entier, alors qu'auprès de la communauté noire, ils sont pratiquement inconnus, d'une certaine façon. En tout cas, pas en tant que duo, hein, où chacun a pu avoir un peu son histoire, mais sans beaucoup de succès. Et donc ce duo est à la fois, effectivement, un duo important dans l'histoire du blues, au niveau de son émergence au niveau mondial, tout en étant, musicalement d'ailleurs déjà, et puis historiquement par ce qu'ils ont fait, assez éloigné de ce que sont les vraies racines du blues.
Tout à fait. D'ailleurs, ils étaient très connus ici en Europe parce qu'ils ont fait partie des premières tournées de bluesmen qu'on faisait venir en Europe, particulièrement en Angleterre. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait une grosse réputation. Mais surtout de country blues, je voulais que tu expliques ce que c'est que le country blues, différence,
oui, donc ce country
de compréhension, de, compréhension voilà. De ce qu'est le country blues.
Tout à l'heure, quand j'ai parlé de ce qu'était le cheminement parallèle des musiciens ruraux noirs au tournant des années 1900 et des premiers compositeurs blancs, c'est ça qui fonde la différence entre ce qu'on va appeler le country blues et le blues urbain. Le country blues, finalement, c'est la forme de blues la plus proche des racines folkloriques. Donc, né dans les campagnes, joué par des musiciens souvent qui ne savent pas lire la musique, qui l'apprennent de bouche à oreille, qui développent un répertoire en copiant des morceaux, en les reprenant, en les modifiant. Donc, un blues très roots. Hein. Et puis, il y a des compositeurs professionnels qui composent des morceaux, qui les publient, qui les font jouer par des orchestres, qui font les arrangements, et qui vont se traduire par les premières reines du blues, les Bessie Smith, les Ma Rainey, et puis les grands bluesmen comme après Tom Parry, Lonnie Johnson, Big Big Bonzi, et qui eux vont développer un blues beaucoup plus sophistiqué, hein, un peu plus riche, moins riche rythmiquement,
tout à fait,
et plus riche harmoniquement. Et ce blues va devenir le blues urbain, hein, effectivement, des années 30, 40, qui est le blues moderne, un B.B. King en étant l'expression la plus aboutie, hein, à partir des années 50. Et le country blues, lui, va plutôt s'éteindre, justement, après Robert Johnson, qui en est un des derniers représentants, qui lui-même, Robert Johnson, n'est pas d'ailleurs élevé dans la tradition des musiciens de country. Il apprend la musique à travers des disques, alors que les autres musiciens l'apprenaient à travers d'autres musiciens, dans des petits coins paumés entre eux, ils s'apprenaient en se copiant les uns les autres la musique. Donc le country blues est vraiment une forme très folklorique, très roots, très épurée, très rythmique, très simple dans son expression, mais très puissante en même temps, alors que à part opposition, mais c'est pas une opposition réelle, c'est un contraste avec un blues beaucoup plus urbain, sophistiqué, développé, harmonisé, arrangé et joué par des orchestres, hein, qui va devenir le blues moderne.
Et passer à l'orchestre, tout à fait. Alors c'est ça qu'il faut quand même bien spécifier, c'est que d'abord une chose, la première, c'est que à cette époque-là, hein, on pouvait pas parler pour le blues de répertoire en tant que tel, mais ces gens-là l'ont construit. Finalement, puisque c'est devenu, le blues a commencé à intéresser au niveau mondial, international, et donc il a fallu faire comme pour le jazz, avoir des standards. Donc ce qu'on appelle en musique classique, créer un répertoire. Et ces gens, comme Sonny Terry, Bonnie McGee, pour moi, à mon sens, ils ont repris des choses qui étaient beaucoup plus proches de. Alors roots, il faut le dire, parce qu'il dit roots, roots en anglais, ça veut dire la source, hein, d'accord. Merci. Et ils ont plus servi dans cette chose-là du répertoire, parce qu'ils ont beaucoup ramené des morceaux qui étaient vraiment du terroir, mais en les jouant d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus en tout cas accessible, épurée et complètement accessible, parce qu'en fait eux ils cherchaient plus le public de la folk musique que le public du blues. C'est pour ça que tout à l'heure quand il expliquait tout ça, c'est venu avec la grande mode du folk, principalement à Greenwich Village et compagnie, parce que Greenwich Village c'était d'abord le jazz, puis ensuite c'est passé, il y avait du blues aussi, mais en fait c'est la folk musique qui a ressorti en se mélangeant. C'est pour ça qu'on a des gens comme Led Belly qui sont devenus très extrêmement importants. Enfin, il faudrait tout reprendre pour voilà. Donc je donne quelques noms pour que les gens se fassent une idée, parce que peut-être il pourra glisser un mot là-dessus tout à l'heure, mais ils ont surtout ce rôle-là.
Voilà, ce sont vraiment des ambassadeurs au sens, qui a permis au blues, hein, d'être projetés dans le monde entier grâce à leur succès. Et donc, pour cela, ils ont un rôle historique.
Alors moi, je vais juste rajouter quelque chose que j'ai lu récemment à propos de Sonny Terry, Bonnie McGee, donc que c'est un groupe moi que j'aime bien, que j'ai découvert justement grâce au fait qu'il y avait j'avais acheté un disque de compilation de blues, hein, sur lequel il y avait notamment des pianistes comme Memphis Slim, parce qu'on parle pas assez souvent du rôle des pianistes dans le blues. Il faut quand même le dire. Et il y avait des gens comme ça. Il y avait aussi Sonny Boy Williamson. Et il y avait les fameux Sonny Terry, Bonnie McGee. Et donc, l'anecdote que j'ai lu récemment dans un magazine appelé Guitar Magazine, c'est que Clapton lui-même a entendu pour la première fois une musique à la radio, et c'était du Sonny Terry, Bonnie McGee, et ce serait, d'après ce que j'ai lu, l'une des raisons pour lesquelles il s'est mis au blues.
Elle est connue, cette interview, seulement il faut connaître l'autre, lui dit que c'était quelque chose de vraiment, voilà, un peu de la bouillie, quoi, hein, il en a parlé en ces termes. Plus tard, que c'était plus Robert Johnson, Big Big Brunzy et compagnie qui l'avait marqué.
Ça peut être déclencheur.
Bah, c'est pas
exactement, c'est un fait déclencheur.
Donc lequel tu veux jouer, Nietzsche?
Comme
en
tu
seul
veux.
Ou en groupe?
En seul.
I'm begging, baby, that's not my fault. Give me one more chance and I correct it all. Because it's my fault, one more chance, and not correct at all. I walk over left you said one word. Something I knew, something I brought in her. Because it's my fault, one more chance, and not correct at all. That's in my mind. Someone else is joining, and I walk and left behind. Because it's my fault, won't move chills, and not correct at all. I forgive you, babe, for the thing that you do. Why can't you hear? Can you forget or run to? Because it's my fault, won't move chills, and not correct at all. Hit me one more time.
That's all my fault.
I need one more chance.
One more chance.
And I correct it all.
And I correct
because
it all.
It's my fault.
One more chance.
And I correct it all.
Yeah. Thank you.
Les Blowing in the Blues en direct des studios de Radio Canu. Donc je rappelle Nejib Gamaz et Hassan Gamaz. Oui, donc ce morceau, rappelez peut-être que c'est le titre. Et,
Alors, le titre c'est My Fault. Hein, moi j'ai une interprétation toute simple de cette chanson, c'est qu'effectivement ça parle du sentiment de culpabilité que l'homme peut éprouver des fois à maltraiter une femme ou quelqu'un d'autre. Et il demande simplement le pardon. Alors chacun a une idée sur le pardon. On en discute souvent avec Hassan, qui a une autre interprétation de cette chanson.
Oui,
et c'est tant mieux, parce que si on s'arrêtait qu'à la mienne, ça voudrait dire que finalement, ouais, je ne sais pas qui l'a écrit vraiment cette chanson.
Il y a plein de clés.
Mais en tous les cas, voilà. Moi, quand j'entends du blues, quand j'entends ce genre de chansons en blues, je sens bien que ces petits bonhommes là, avec leur petite guitare et leur truc, ils ressentent les choses d'une manière très profonde. Et qu'ils ont besoin de l'exprimer tout simplement à travers des chansons, et que s'ils n'avaient pas ce moyen de le faire, eh ben cette musique, elle n'aurait pas la profondeur de ces expressions. Elle n'arrivait pas à s'exprimer aussi profondément. Voilà, ça c'est ma version. C'est comme ça que j'ai senti, que je ressens les choses quand j'entends du blues. J'entends des femmes et des hommes qui ont besoin d'exorciser un petit peu. Ou le mal, ou le bien qu'ils ont en eux, mais en tous les cas, de l'exprimer à travers ces chansons.
Et donc on parle pas de le... Non, on déclenche pas la polémique sur...
Non, c'est pas une polémique.
Il
n'y
a pas de polémique. C'est simplement que l'interprétation personnelle, c'est la sienne.
On avait déjà parlé, mais peut-être qu'Hassan peut nous donner la sienne.
Non.
Du coup, pour la même la désamorcer, je vais dire une idée complètement iconoclaste. Hein. C'est que, en finale, les paroles du blues, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'essentiel du blues.
Exact.
C'est-à-dire que les paroles, bien sûr, racontent des histoires. Et le talent d'un chanteur, c'est pas d'avoir vécu l'histoire. C'est de la capable de la, seulement de la faire vivre, hein, et de l'exprimer. Et le blues, c'est un rituel pendant toutes les années 20, 10, 20, 30, dans lesquelles le public qui va écouter du blues, le public noir, il va pas dans une salle comme on va nous à un concert. Il se retrouve dans un coin et quelqu'un chante le blues. Et ça crée une espèce, il y a parlé d'exorcisme en Égypte, il y a un peu ça.
Ça vient de la musique africaine.
On peut comparer le rituel du samedi soir à la messe du samedi, du dimanche matin. C'est exactement les mêmes fonctions.
Oui,
les deux ont les mêmes fonctions. Les deux permettent à une communauté d'exprimer, d'exalter, d'exorciser effectivement tout ce qui fait ses peines et ses joies. Hein, et à travers du rythme, des percussions, du rythme et accessoirement des paroles religieuses le dimanche matin et plutôt triviales le samedi soir.
Parce que, voilà, en fait, parce que c'est, en fait, c'est vraiment ça. C'est puisque ça vient de, d'Afrique et qu'en Afrique existe vraiment des musiques de trance. Qui a d'ailleurs, pas dans l'Afrique du Nord, c'est devenu le Gnawa. Mais ça, puisque ça venait du Ghana et de la Guinée. Donc il y a vraiment ça. Il faut savoir qu'en plus, il y a tout le rite du vaudou qui vient de l'ancien Dahomey. Hein.
Cela dit, la
tout ça, c'est lié.
Juste pour te couper, la trance, vous avez très bien la rendre, les Blues. In the Blues,
c'est une partie de la
de votre travail, en tout cas.
C'est une partie qui est dans le blues, mais qui est inhérente à la musique. Hein. C'est pas, là, c'est vraiment quelque chose qui appartient quand même à la communauté noire et à la communauté africaine. Hein, il faut le... Mais elle existe, même ici en Europe, elle a eu existé. Hein, des musiques qui sont censées enlever tout ce qu'on porte. Comme Brassens a très bien fait ça. Mais c'est d'une autre manière, tandis que là c'est purement musical et purement par le rythme. Ce que vient de dire Jean-Claude, très important, le discours musical du blues est un contrepoint rythmique avant tout. C'est vraiment une musique ancrée dans la musique africaine. C'est vraiment ça. Après, pour ce qui est des textes, chacun fera ce qu'il voudra, c'est pas l'affaire. Après, moi, ce que j'entends dans l'interprétation du blues, c'est que selon la personne qui la chante, on peut dire qu'à chaque fois le sens change. Mais que c'est tout lié à toujours à ce qu'étaient les Afro-Américains aux États-Unis. Ça, pour moi, c'est incontournable. C'est-à-dire que, mais par contre, il est vrai. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que le texte en lui-même, parce qu'en plus, l'anglais étant une langue idiomatique, faut bien comprendre que ça, on émet des images quand on parle en anglais. C'est pratiqué dans le blues, c'est encore plus développé. Donc chacun pourra faire dans sa tête ce qu'il entend, avec ce qu'il entend, que dans l'expression qui est donnée, il entendra des choses. On peut entendre quelqu'un qui dit de la chanson My Fault qu'on vient d'écouter, il dit que c'est toute sa faute. Mais il y a beaucoup de blues qu'il faut prendre au deuxième sens. C'est-à-dire, ok, c'est ma faute, pas de souci, quoi. Si ça peut arranger l'affaire, c'est ma faute. Alors il s'excuse, mais c'est une excuse bidon.
Alors, excuse-moi.
Il y a beaucoup ça dans le blues.
Moi, je veux rebondir.
I'm so glad, par exemple, où il y a eu I'm sitting on top of the world, qui veut dire quand même, je suis assis sur le toit du monde. C'est totalement ironique. Le type, il est dans une condition pas possible. Il dit, je suis assis. Est-ce qu'il essaye justement d'échapper à sa condition? C'est évident. Ouais. Mais après, d'autres peuvent l'interpréter autrement. Ils peuvent croire qu'il y a quelqu'un qui est totalement mégalo et qui se croit assis sur le toit du monde.
Oui, ça c'est propre à certaines chansons. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'elle vient d'évoquer, et je suis complètement d'accord avec Jean-Claude, concernant le fait de jouer le samedi soir, se réunir d'une manière assez informelle et tout à fait pour exorciser, puis se laisser aller, puis dimanche matin, la messe. Dernièrement, je me suis intéressé à une très très grande chanteuse, compositrice, musicienne nord-américaine qui s'appelle Nina Simone, parce que c'était une artiste extraordinaire, quoi. Et elle a défendu la cause afro-américaine d'une manière sans répit, hein. Elle a redonné aussi un peu de place à l'afro-américanité. Et dernièrement, j'ai découvert une chose incroyable, parce que sa mère, qui venait d'une famille religieuse, son père était pasteur, et sa mère s'est vraiment sacrifiée pour lui donner cours de piano, et son grand désespoir à Nina Simone, c'est de pas avoir fait carrière dans le classique. Et j'ai entendu une chose extraordinaire à son propos, et c'est sa prof de piano qui avait dit que la première fois que Nina Simone, elle a fait écouter Jean-Sébastien Bach à Nina Simone, elle est presque tombée dans les pommes, tellement c'était une découverte incroyable. Et quand on sait par la suite ce qu'a pu créer Nina Simone avec son talent, évidemment, mais aussi avec ses références, ce qui allait aussi bien au classique qu'au blues et aussi au jazz, ben voilà, c'est un exemple tout à fait incroyable. Et la dernière chose que je voulais rajouter pour rebondir sur ce que je veux dire, c'est que elle avait toujours fait croire à sa mère qu'elle était à New York, parce qu'elle jouait dans des bars et des cabarets, parce qu'elle avait un talent fou. Elle a mis pratiquement plus de 10 ans pour avouer à sa mère que finalement elle jouait du blues, du jazz, etc. Et ça a coupé les ponts avec sa mère, elle lui a coupé les vivres, parce que c'était la musique du diable.
Oui, ben, on a connu, nous, puisque je l'ai accompagné sur scène avec Jean-Claude, on a connu le petit-fils de Robert Johnson, il s'appelle Steven. J'ai accompagné sur scène d'ailleurs. En discutant avec lui, il m'a dit que longtemps il voulait pas trop se faire reconnaître, que dans sa famille il fallait pas qu'ils en parlent trop. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jean-Claude. Parce que lui était d'une famille de prêcheurs, je crois. Enfin, comment on peut dire ça, prêcheurs,
ouais, prêcheurs, ouais.
C'est ça. Et que longtemps il fallait surtout pas qu'ils le disent, qu'il était le petit-fils de Robert Johnson, parce que dans la famille ça jetait vraiment. Il y a que maintenant que les gens commencent à reconnaître, même dans le Sud. Les États-Unis commencent, donc des Afro-Américains commencent à reconnaître leur identité dans le blues. Mais longtemps, il y en a beaucoup. B.B. King en a beaucoup parlé de ça. Par exemple. Donc, on va faire un petit morceau de monsieur Big Bluesy. Alors, cette histoire de Big Bluesy, il en dira plus long que long, mais moi, ce qu'il a retenu, c'est cette affaire de cette personne. Il y a eu un grand producteur de blues et de jazz. Il s'appelait John Hammond, qui a aussi découvert Aretha Franklin et monsieur Bob Dylan, pour toi, mon cher ami. qui a travaillé pour la Columbia, et c'est lui qui, grâce à lui, que Bob Dylan a été connu à travers le monde. Il avait organisé un grand concert. L'année m'échappe tout le temps, Jean-Claude.
38.
À 38, à Carnegie Hall, qui rassemblait toute la musique afro-américaine. C'est-à-dire le jazz, la soul, le gospel.
Spiritual jazz, ouais, c'était ouais. Le titre du...
Exactement, ça partait des spirituals jusqu'au jazz, en passant par le blues et compagnie. Et en fait, John Hammond, lui, d'ailleurs, qui avait racheté les droits de Robert Johnson pour les protéger, et après, c'est lui qui a sorti le fameux King of Delta Blues, lui, il voulait Robert Johnson. Pour ce truc-là, et il fait rechercher Robert Johnson, et il découvre qu'il est mort. Et là, je vais laisser Jean-Claude vous en dire plus, mais
Que oui. Donc du coup, John Hammond veut absolument faire un événement pour sensibiliser la population de New York, des milieux artistiques, à ce qu'est la musique noire. Donc il veut rassembler le maximum de musiciens significatifs. Il loupe Robert Johnson, qui vient de se faire assassiner juste l'été 1938, au mois d'août. Et son concert est prévu au mois de novembre. On lui indique à ce moment-là Blind Bob Fowler comme étant un autre musicien qui vit de la côte est. Mais quand il arrive pour le solliciter, lui a été mis en prison parce qu'il a tenté de tuer sa femme. Du coup, il est à quelques semaines de son concert, et il lui manque ce musicien
de country blues.
De country blues, comme on dit tout à l'heure, hein, dont il veut
country blues.
Oui, il a pas le contre. Et du coup, il a plus le choix et il demande à Big Bill Bronzy, qu'il connaît. Qui est parti de sa campagne depuis déjà à ce moment-là, pratiquement 20 ans.
Oui. Hein,
20 ans. Presque 20 ans, 18 ans. Et il lui demande se rhabiller en paysan, de prendre une guitare acoustique et de venir chanter sur scène des vieux morceaux. Et du coup, Baby Bronzy, il joue le jeu. Et Baby Bronzy va, après ce concert, décider, alors qu'il est un des premiers musiciens à avoir fait jouer une guitare électrique sur ses morceaux, qui joue des morceaux qui passent dans les jukebox pour faire danser les jeunes noirs de Harlem. Hein. Donc il n'est pas du tout branché contre le blues à ce moment-là. Il n'y est plus du tout. Il va dire, je garde la salopette finalement. Et il va se mettre à jouer pour des publics blancs. Et c'est de là que va partir pratiquement, que vont repartir tout ce mouvement hein, de revival, parce que c'est lui qui va être le premier à rejouer, à avoir du succès hein, dans la fin des années 40. Hein,
pour ceux qui en veulent une belle illustration, c'est dans la collection de Martin Scorsese, sur le blues, il y en a 7. Donc la dernière, c'est justement le revival en Angleterre. Donc dedans, on y voit Clapton, Jeff Beck, tout un tas de gens, des chanteurs, des chanteuses. Et tous disent. Le fameux mot qui vous a fait rire la dernière fois, quelle escroquerie, mais de génie. En fait, ils ont fait croire que ce type était encore le dernier survivant capable
de... Ah oui, il l'annonce comme arrivant de Mississippi. Hein,
du Mississippi, alors que c'était totalement faux. Parce que l'autre jour, ça vous a fait rire, mais c'est une vérité historique. Tout à fait. Mais quand j'ai dit escroquerie, eux, même dans le avec les gens, quand ils en parlent, ils le disent, même Clapton lui aussi, il dit, mais il avait tellement de talent qu'on était trop content d'aller le voir.
Et d'ailleurs, il faut citer que parmi les musiciens qui ont un gros succès ce jour-là, il y avait Sonny Terry, qui est passé à ça aussi, qui a eu un bon succès.
Bronnie McGee, n'en dis pas que la moitié, le pauvre.
Non, mais c'était Sonny Terry tout seul.
Ah, Sonny Terry tout seul, je jure.
Ils n'étaient pas ensemble au départ.
D'accord.
Ils n'étaient pas du tout ensemble.
Ah, bah, c'est une bonne information.
En 38, Sonny Terry, il ne connaît pas Bronnie McGee encore. Thank you.
me. I'm bitted out and I'm bound to go. I'm gonna leave and running, cause walking's most too slow. I'm going back, back to the border, where I'm baby bound to know. Because you've done nothing, baby, but drive the good man away from home. Give me one kiss, and darling, when I have ever been alone. Because when I leave this time, I won't be back no more. I got a key to the highway, built out and I'm bound to go. Gonna leave and run in, go walking a little most too slow.
Yeah. Voilà, Blowing in the Blues. Ben, figurez-vous que s'il est midi, c'est la fin de l'émission. J'ai pas vu passer l'heure.
On n'a pas le temps d'en faire un dernier.
Si vous voulez, si, on peut dépasser un peu l'émission.
C'est juste parce que Nidji va parler des pianistes de blues, Jean-Claude Poirot dernièrement. Je vais juste faire un morceau de Monsieur Big Maceo, Meriwether, parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté.
Pas de souci.
Et certainement l'un des pianistes de blues les plus importants, avec Pete Johnson, je crois, hein, me semble-t-il, qu'on peut dire que c'est pas la même époque, je crois, tout à
non.
fait. Mais on va dire que c'est vraiment des piliers, parce que en fait, le piano est rentré dans le blues plus tard, quand même, hein, par rapport au le blues roots. C'est arrivé un peu plus tard, à travers le ragtime et compagnie, donc c'est encore, voilà, c'est pour compléter ce que disait Nidji. Ça, c'est un morceau que Muddy Waters a demandé à Eric Clapton de remettre au répertoire, sujet à ce que Monsieur Big Maceo est mort d'alcoolisme. Et Clapton ayant monté tout un... Il y a eu des gros problèmes d'alcoolisme, justement, a monté la fameuse association Crossroads, qui s'occupe de tous les genres d'addiction. Il n'y a pas que l'alcoolisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va rendre hommage à Big Maceo, puisque Nidji va parler tout à l'heure des pianistes de blues. Et il était connu pour être une main gauche infernale. Donc voilà, même cette chanson était
reprise. Percussif, hein, un bluesman ouais. très percussif. Hein.
Et moi, je recommande aux gens d'écouter Big Maceo. Savoir que cette chanson était reprise par Ray Charles, par un nombre de à travers le monde, devient un grand standard. Lord,
the Lord.
It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. You're on my mind every place I go. How much I loved you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I had a worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights you've been gone, I had a worry, dreamed my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. That's all I gotta say to you. Goodbye, baby. I don't care what you do, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Oh, Lordy, Lord. For us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Voilà, Blowin' in the Blues en direct. Donc, je rappelle que c'était musique, etc. On va se quitter, hein, on est obligé.
Oui, oui. Ah, ça, tu peux rappeler, oui. On peut nous joindre.
Oui, oui, non, simplement, je rappelle qu'on était en compagnie également de Jean-Claude Legros, donc qui. Oui. Voilà, donc.
Le site Bluesatique, voilà, pour ceux qui veulent voir.
Voilà, donc il y avait Najib, Gamaz et Hassan Diras.
Salut à tous, et bien, merci.
On vous retrouve, vous, Blowin' the Blues, quant à vous.
Bientôt, on sera sur André. Ambérieux en Bugey, au pub restaurant, c'est un gros truc qui est dans la zone industrielle du centre commercial, me semble-t-il, qu'en centre commercial de.
Mais le mieux, c'est d'aller sur le Facebook.
Voilà, sur Facebook, on a deux pages Facebook, j'en ai. À mon nom, Hassan Diras, une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube d'ailleurs aussi de Jean-Claude Legros, je ne sais plus, King Hendrix.
King
Hendrix, ouais. C'est ça. Quand même, je me rappelle. Ouais. Et il a aussi donc son site,
Bluesatic, A-D-T-I-C, qui veut dire grenier du blues. Il a aussi une page Facebook, on peut donc nous suivre. Et là-dessus, il y aura les concerts. Et le prochain, donc, est au B52, à Ambérieu-en-Bugey, c'est le 27 janvier,
oui.
Voilà, pour l'instant.
Et il semblerait que dans l'Ain, il y a de plus en plus d'amateurs de blues. Ça, on en est tout à fait contents et heureux. Voilà. Donc, on se retrouve au concert.
Et puis, merci aux auditeurs de Radio Canu. Merci à toi toujours, Guillaume, de nous recevoir.
Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc
et on a oublié de dire bonne année aussi.
Ah oui, on n'a pas souhaité la bonne année aux auditeurs. Bah,
c'est-à-dire que nous, on se suit sur Facebook.
Non, mais je veux dire bonne année à tous les auditeurs de.
Voilà. Avec Hassan Gamaz, on n'aime pas Facebook, mais on est tout le temps dessus.
Oui.
Et longue vie à Radio Canu.
Il a donc reçu nos vœux en couleur et en images.
C'était très joli. Bon, voilà. Oui, il faut qu'on se quitte maintenant. Donc, merci à tous les trois d'être venus jusqu'à Radio Canu. Rendez-vous sur les blogs de Radio Canu pour le podcast. Et puis, donc, je vous laisse avec le générique. Et à très bientôt, tous les trois.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Salut.